Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons terminer le livre « Je croyais en Issa, j'ai rencontré Jésus » ou « Quand un musulman fervent est confronté à la grâce » édition Urania, un livre écrit par Jamel Attar. Vous vous souvenez sans doute du chapitre 5 qui avait pour titre « Qui es-tu ? Est-ce à toi ? Est-ce toi Jésus ?» Nous allons lire, à partir de maintenant, ce dernier morceau. Qui es-tu ? Est-ce toi, Jésus ? Un combat violent et continu s'était déclaré en moi. Il avait pris place dans mon cœur maintenant. Si quelqu'un m'avait interrogé à ce moment-là sur ma foi, j'aurais répondu avec netteté que j'étais musulman. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que je n'avais plus du tout la même assurance qu'à mon arrivée en France. J'étais très malheureux. Non seulement en raison de mon refus délibéré de la vérité, mais aussi à cause de la perte de mes assises. La vérité et ma religion se livraient une lutte terrible en moi. Après 2 ans et demi de contact avec les chrétiens, j'en étais arrivée à ne plus supporter d'entendre parler de l'Évangile, tellement cela me tourmentait. Quand je discutais avec eux, cela finissait toujours par des disputes. En dépit de mon refus d'entendre dorénavant l'Évangile, j'aimais passer du temps avec la famille du pasteur. Le lundi 5 août était un jour comme tant d'autres chez eux. Ma tristesse était bien visible, mon visage reflétant mes angoisses spirituelles. Aussi, Betty, la femme de Daniel, et sa fille Suzanne ont-elles trouvé normal de me parler de l'origine de cette détresse? C'était à cause de mon refus de l'Évangile, ont-elles osé me dire. Je serai malheureux tant que je n'aurai pas accueilli Jésus-Christ comme mon sauveur. Cette fois-là, j'ai décidé que ça n'était trop. Je leur ai dit que je ne voulais plus jamais entendre parler ni de Jésus, ni d'eux, ni de personne. Et j'ai insisté pour qu'on me ramène chez moi. Une fois arrivée à la maison, après avoir cherché vainement par plusieurs moyens la paix de l'âme, j'ai pris le Coran et je me suis mis à le lire. Cette lecture était censée m'apaiser conformément à la promesse du Coran lui-même. Mais alors que les paroles sortaient de mes lèvres, mon cœur restait sec, contrairement à l'habitude. Il était 1h30 du matin quand j'ai décidé d'aller dormir. Dans mon lit, j'ai commencé à prier Allah, comme je le faisais chaque nuit, récitant des passages du Coran et des prières que je connaissais par cœur. Mais c'est le vide qui m'a entouré autant que le silence. En dépit de toutes mes tentatives, je n'arrivais pas à trouver la paix du cœur à laquelle j'aspirais tant à ce moment-là. Allongée sur mon lit, je me suis soudain redressée, tremblant, envahie par une peur indescriptible. Quelqu'un était entré dans la chambre. La pièce entière se remplissait de sa présence réelle. Il était là, devant moi, sur les côtés. Il était partout. Je me suis mise à trembler de tout mon corps, devenue totalement engourdie. Poussée par une force invisible, je me suis écriée « Mais qui es-tu ?» Soudain, le nom de Jésus s'est mis à résonner dans ma tête, puis dans tout mon être. Mon corps tremblait, mon cœur battait fort. Pourquoi ai-je pensé à lui? Pourquoi son nom s'est-il imposé à cet instant, à moi? Est-ce toi, Jésus? Lui ai-je spontanément demandé, alors que je ne pensais absolument pas à lui au moment de me mettre au lit. Il était de plus en plus évident d'une évidence inouïe pour moi, que cette personne était Jésus. Oui, il était là, en personne. Comment ai-je su que c'était lui ? Une seule explication, c'est lui-même qui s'est fait connaître à moi. Il voulait bien se révéler à mon pauvre cœur. Il voulait mettre fin à mes tourments et me montrer qu'il est le chemin du salut. C'est lui qui est venu se faire connaître à moi comme le Seigneur vivant et me sauver. Si c'est toi, Jésus, je t'accepte, ai-je ajouté. Une certitude inébranlable m'a alors rempli. C'était bien le Seigneur Jésus. Le sentiment qui m'a envahi à ce moment-là est indescriptible. J'ai su que Jésus était réellement d'un autre monde, du monde de Dieu, qu'il est le vivant. Cependant, je ne pouvais me résigner à ce que je venais de dire, si bien qu'immédiatement après, j'ai commencé à crier « Non, 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 je ne veux pas !» Je me suis rendu compte que j'avais prononcé des paroles qui allaient bouleverser ma vie. Mais je ne pouvais fuir le nom de Jésus. Sa présence avait envahi la pièce, elle m'entourait de toutes parts. Dieu a alors mis dans mon esprit l'idée de téléphoner à Daniel, le pasteur. En titubant, j'ai descendu l'escalier et je me suis dirigée vers la pièce où se trouvait le téléphone, à 15 mètres de là. J'avançais tout en résistant et tout en criant « Non, non, je ne veux pas, non !» Mais une main posée contre mon dos me poussait, malgré moi, tout au long du parcours vers l'appareil. Il était 2 heures du matin lorsque, tout tremblant, j'ai composé machinalement le numéro. « Il faut absolument que je parle au pasteur !» et je dis à sa femme qui avait décroché. Je n'ai donné aucun détail concernant la raison pour laquelle je leur demandais à tous les deux de venir me voir au beau milieu de la nuit. Ils m'ont dit plus tard qu'ils avaient pensé, en raison du ton de ma voix, que je faisais une dépression nerveuse et que j'avais sans doute fait une bêtise. J'étais assis au fond de la pièce lorsqu'ils sont arrivés. En voyant le pasteur, je lui ai sauté dans les bras en sanglotant. J'étais incapable de m'arrêter. Je crois d'ailleurs que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie que ce jour-là. Alors qu'il me demandait ce qui se passait, j'ai réussi à lui dire entre 2 sanglots « Il faut que j'accepte Jésus ». Je lui ai répété cela plusieurs fois. J'étais si émue que je n'avais plus de force dans les jambes. Daniel m'a conduit vers une chaise et m'a fait asseoir. Je lui ai alors répété que je devais accepter Jésus-Christ dans ma vie et je leur ai raconté ce qui venait de se passer. En entendant cela, il a eu le visage illuminé par un sourire et il lui a fallu de grands efforts pour ne pas sauter dans mes bras. Je connaissais si bien le plan de Dieu pour le salut, l'œuvre qu'il a accomplie pour sauver les hommes, et je voulais maintenant que cela devienne une réalité dans ma vie. Me connaissant, Daniel m'a posé la bonne question. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu véritable ? Oui, je le crois. Et je répondis, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Jamel, crois-tu que Jésus-Christ est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés et qu'il est ressuscité pour t'assurer la vie éternelle et le paradis ? Oui, je le crois. Je crois qu'il est mort et qu'il est mort pour mes péchés. Je crois au Seigneur Jésus. Tous ceux qui l'ont reçu, a continué le pasteur, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voir Jean chapitre 1, le verset 12. Crois-tu qu'il veut faire de toi son enfant ? Oui, oui, je le crois. Alors, bienvenue dans la famille de Dieu. Sache que Dieu t'a pardonné tes péchés, parce que tu as cru en Jésus, son Fils, le Sauveur et le Seigneur. » Nous nous sommes alors agenouillés dans la prière. Une paix insurmontable que je n'avais jusque-là jamais connue a commencé à envahir mon cœur. La certitude que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est la vérité, qu'il est vivant, a envahi tout mon être. Pour la première fois, je me suis adressée à Dieu comme à mon Père céleste, et cela grâce à Jésus, le Seigneur, qui a été crucifié et est ressuscité pour moi.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Je lis pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 6. Jésus, le Seigneur de gloire. Peut-être êtes-vous surpris que je continue. Pourtant, il ne serait pas normal que mon récit s'arrête là. En effet, la rencontre cette nuit-là avec le Seigneur Jésus a marqué le début d'une vie totalement nouvelle et la découverte d'un chemin nouveau. Parcouru pas avec sa présence et éclairé de sa lumière. Avant d'évoquer cette vie nouvelle, je voudrais donner des précisions sur celui qui l'a rendu possible. Celui que j'ai découvert cette nuit-là au bout de mon chemin. Je voudrais dire qui est Jésus pour le chrétien que je suis devenu cette nuit-là et que je suis maintenant. Divin Sauveur. Dès le lendemain, toutes les larmes que j'avais versées se sont transformées en un rire et une joie impossible à décrire. Et c'est bien normal, quand on sait par expérience que Jésus est vivant. Il m'a fait l'immense grâce de venir me chercher dans mon ignorance, dans mon tourment, dans mes ténèbres. Seul Jésus le Sauveur pouvait faire en sorte que l'impensable devienne possible, que Dieu ouvre ses bras pour m'accueillir dans sa grâce et son amour. Je le croyais simple prophète. Il s'est révélé le Seigneur de ma vie. Pendant 3 ans, il n'a cessé de s'approcher et de se dévoiler à vous, moi. D'homme dont je connaissais seulement le nom, il s'est révélé grâce à la Bible et au témoignage des chrétiens. Homme de chair, attirant, merveilleux, étonnant, incomparable, unique, Fils de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, la façon dont il est mort, dont il a aimé. Tout témoignage pour lui qu'il est bien Dieu. Permettez-moi de prendre à mon compte une parole d'Augustin à propos des apôtres. Ils ont vu l'homme Jésus et ils ont cru en Dieu. J'ai vu Jésus et j'ai cru au Dieu qu'il révélait, au Dieu qu'il était. Voilà qui est en réalité Jésus. Jésus, la parole de Dieu, a révélé Dieu aux hommes, a présenté l'homme Dieu comme l'écrivait Irénée. Jésus m'a révélé Dieu et il m'a présenté à lui. Il est évident que c'est lui qui distingue du christianisme de toutes les autres religions. C'est lui qui a fait entrer les hommes dans le plan d'amour du Père. Plus encore, il leur a donné accès à la vie même de Dieu. Tous ceux qui en soivent boivent et se désaltèrent. Ils ont part à la vie éternelle, qui est rien d'autre que la vie du Fils même, donnée pour nous, implantée en nous, nous unissant à Dieu. Un tel horizon, de telles espérances ne sont tout simplement pas concevables dans l'islam, dont les aspirations les plus profondes ne dépassent pas la plus grossière des conceptions du paradis. En réalité, Jésus n'est pas à comparer à Mohammed, autant comparer l'océan à un ruisseau, le soleil en plein midi à un lumignon. Jésus n'indique pas seulement le chemin qui mène à Dieu, il est le chemin. Il ne donne pas seulement des commandements, il change les cœurs et procure la force nécessaire pour que l'homme puisse les accomplir. Son message ne se limite pas à un appel à la soumission à Dieu. Il est un engagement à la vie dans une relation de père à fils entre l'homme et son Dieu. Surtout, Jésus n'est pas un simple prophète. Il est le Fils même de Dieu qui seul peut nous révéler le Père et siège actuellement à sa droite, partageant avec lui la souveraineté du monde. Jésus n'est pas seulement un homme, il est Dieu fait homme. Emmanuel, nom hébreu signifiant « Dieu » avec nous. Ce n'est pas associer à Dieu un autre Dieu que de proclamer Jésus Seigneur et Fils de Dieu. En tant que chrétien, je n'associe pas Dieu à une autre divinité. J'adore l'unique Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, en accueillant humblement comme une vérité de foi ce que Dieu m'a révélé de lui-même. À la suite du peuple d'Israël, je confesse. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Et avec les apôtres de Jésus-Christ, j'attends la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite chapitre 2, verset 13. Une vie nouvelle ? Vous constatez donc que je n'ai pas simplement changé de religion. Je me suis engagée sur le chemin de la vie, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimée et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Je n'ai pas troqué des règles religieuses pour d'autres ni abandonné la loi islamique pour une autre loi. Je me suis détournée d'une religion pour vivre une relation toute nouvelle avec Dieu par Jésus-Christ. Désormais, mon obéissance au Seigneur, je la désire, je la cherche, non en vue d'obtenir quelque chose de lui en retour, mais tout simplement pour lui plaire, parce que j'ai déjà tout reçu de lui. Elle est l'humble expression de ma reconnaissance pour son don ineffable. Pour le dire plus précisément encore, mon obéissance est elle-même ce nouveau chemin qui conduit au cœur même de Dieu, d'où jaillissent, comme d'une source intarissable, la paix, la joie, l'amour, bref, la vie divine. C'est d'ailleurs là le seul moyen pour une vie assurée de l'amour de Dieu et en communion avec lui. J'ai tout de suite compris en lisant la Bible que le projet de Dieu pour ceux qui croient en son Fils n'est pas simplement de les sauver de la tyrannie du péché. En réalité, il veut nous conduire jusqu'au cœur de son royaume où la joie, la paix, l'amour sont en abondance. Là, il veut s'offrir à nous comme Père, afin que nous nous repaissions de lui et qu'il nous désaltère, lui dont la vie telle une eau jaillie d'une source éternelle remplit le cœur. Surtout, il veut nous transformer par son esprit qu'il a mis en nous, en nous dépouillant de notre vie passée et de nos tendances au mal pour nous revêtir de sa vie nouvelle. Il veut nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ et participants de sa gloire. Voilà à quoi Dieu nous prépare en nous sauvant. Et c'est bien plus en adéquation avec la nature divine, infiniment plus même que le projet coranique pour ceux qui se soumettent à Allah. Voilà pourquoi nous ne trouvons dans le Nouveau Testament aucune loi politique ou religieuse, mais une espérance sous forme d'impératif. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Ainsi, c'est en compagnie de Jésus, tel que la Bible le révèle et non tel que l'islam l'imagine, ce Jésus qui fait sa demeure en moi par son esprit et remplit ma vie de sa sainte présence, que je me suis engagée sur cette nouvelle route où je ne suis pas seule. Il a en effet voulu que tous ceux, hommes et femmes, noirs ou blancs, qui le confessent comme le Seigneur, mort pour leurs péchés et ressuscité pour leur justification, marchent ensemble et constituent une nouvelle communauté qui est l'Église. C'est pourquoi, tout de suite après ma conversion, j'ai rejoint une église évangélique baptiste où j'ai pu grandir dans la foi. Un an après ma conversion, je me suis inscrit pour 3 années d'études à l'Institut de théologie d'Algrange qui forme des pasteurs. En effet, dès le lendemain de cette nuit mémorable, il a été clair pour moi, de manière indiscutable, que le Seigneur voulait que je me forme pour le servir dans le ministère. J'ai eu la certitude que Dieu m'avait sauvé pour que je le serve. À l'Institut, j'ai connu 3 années de belles découvertes, d'approfondissement de la foi, de la croissance dans la connaissance du Seigneur Jésus. Cela a aussi été 3 années de recherche sur l'islam et le vrai visage de cette religion. Et cette recherche s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. Après mes études de théologie, je me suis engagée dans la même église et j'ai épousé Suzanne, la fille de Daniel et Betty. Depuis de nombreuses années, j'ai la joie immense d'exercer le ministère pastoral dans la communauté que Dieu a utilisée pour me faire connaître sa grâce, avec ma femme et nos trois enfants. Et c'est une vraie bénédiction pour nous d'y côtoyer des hommes et des femmes désireux de mener une vie qui plaît à Dieu, de marcher dans ses voies et de l'honorer. Et ma famille ? Et sa famille ? Comment a-t-elle réagi ? Vous demandez-vous peut-être. La première difficulté que j'ai dû affronter juste après ma conversion, c'était, en effet, ma famille. Dans mon enthousiasme, j'ai cru qu'il me serait facile, une fois en face d'eux, de leur dire la vérité et même de les conduire vers le Seigneur Jésus. Mais les choses ne se sont pas déroulées de cette façon. Un homme, originaire du même endroit que moi au Maroc, que j'avais rencontré à Paris, apprenant que je n'étais plus musulman, a dit à mes parents, lors d'un voyage au pays, que j'étais devenu fou. D'autres informations stupides et totalement erronées leur ont été communiquées et les ont mis dans un état déplorable. Du coup, je n'ai pas pu leur dire quoi que ce soit quand je suis retournée les voir un an après ma conversion. J'ai pu parler avec deux de mes frères, mais pas avec mes parents. C'est par téléphone, une fois de retour en France, que je leur ai annoncé la nouvelle. Elle les a consternés, bien sûr. Ils ont été bien tourmentés, je l'ai su plus tard. Mais par la grâce de Dieu, au fil du temps, voyant que ma conversion n'a fait de moi ni un dévergondé, ni un soulard, ni rien de ce qu'ils imaginaient, mais bien au contraire, que mon amour pour eux est resté intact et que ma femme les aime d'un amour sincère, ils ont fini par accepter ma démarche. Le Seigneur a ouvert le cœur de ma famille et deux de mes frères se sont convertis à leur tour. Les autres ont entendu et vu l'Évangile grâce à nos discussions et au film « Jésus » réalisé par Life Agape que nous leur avons montré plusieurs fois. Nous persévérons dans notre témoignage auprès d'eux. Notre prière est qu'ils se tournent tous vers le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Chapitre 7. Promesse. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de sa faute, dit la parole de Dieu au psaume 32, verset 2. Oui, il est heureux celui qui se sait pardonner de Dieu dès maintenant. Ce bonheur est donc pour moi qui ai reçu le pardon par la grâce de Dieu manifestée dans le Seigneur Jésus. Dorénavant, le ciel même m'est accessible, le cœur de Dieu m'est ouvert, la promesse de la vie éternelle dans la présence du Seigneur m'est acquise. Cette espérance, que dis-je, cette certitude glorieuse, ainsi que la main de Dieu posée sur ma vie, me font avancer. Jésus-Christ, le Seigneur vivant, tout en marchant avec moi, à mes côtés, sa lumière divine irradiant mon âme, pour qu'elle lui ressemble, m'attend au bout du chemin, les bras grands ouverts. Ce bonheur accompagné de toutes ces promesses est pour vous aussi, qui êtes en train de me lire. Dieu vous l'offre, il vous invite à venir à Jésus-Christ, son Fils, et à croire qu'il est mort pour vous pardonner vos péchés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Actes chapitre 16, verset 31. Voilà la promesse de Dieu pour vous et pour tous. Faite par Dieu, elle a été rendue possible, car Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 et 4. Ces deux versets résument l'évangile, qui est la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons péché contre Dieu et totalement échoué à le glorifier. Il est inévitable que notre péché soit suivi du châtiment prononcé par Dieu, le juste juge. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais parce qu'il nous aime, il ne pouvait se résoudre à cette sentence. À cause de son grand amour et de sa bonté, il a envoyé Jésus, son Fils, dans notre monde pour qu'il subisse à notre place le châtiment que nous méritons. Lui qui n'a jamais commis de péché et ne devait donc pas mourir, il a subi la mort et a pris sur lui le péché de tous ceux qui croient en lui. Croyez en Jésus, le Fils de Dieu, pour le pardon de vos péchés, car toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, verset 43. La confiance placée en Jésus-Christ vous mettra sur un chemin nouveau et vous vivrez une vie nouvelle. Lui qui est mort pour vos péchés est ressuscité. Il est vivant, il vient faire sa demeure dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Et il le change en un cœur nouveau qui bat au rythme de la vie. Avant de terminer, je voudrais relire simplement la dernière écriture de ce livre sur la quatrième de couverture. C'est en somme un résumé de tout ce que nous avons dit. Et il est terminé par une phrase de Saïd Oujibou, un autre musulman converti au christianisme, et qui nous donne son avis sur ces paroles. Je relis. « Je croyais en Issa, j'ai rencontré Jésus » par Jamel Attar. Jamel, jeune Marocain, un besoin pour ainsi dire inné de Dieu, une soif dévorante de le connaître et un engagement de plus en plus fort dans la pratique d'un islam strict. La volonté de faire découvrir la vraie foi musulmane aux autres et de les encourager à l'appliquer. Une grande admiration pour le prophète Mohammed, des convictions fortes. Et puis, un jour, l'arrivée en France pour la poursuite d'études universitaires. La confrontation avec l'Occident et le christianisme. Le choc. Comment le jeune Jamel va-t-il gérer la découverte d'une foi différente de la sienne, mais tout aussi sincère, et d'un Jésus autre que celui qu'on lui avait décrit, un parcours personnel qui ne manque pas d'intérêt. Voici ce qu'a écrit Saïd Oujibou. Bouleversant et vrai, un écrit avec force, un écrit avec foi, et tout ceci sans compromis. À bientôt, chers auditeurs. À bientôt pour un nouveau livre.